D'une part, il y a ce que nous avons appelé les travaux et les jours, qui est le temps commun, le temps quotidien. Les hommes vaquent à leurs travaux, un sinistre déclare peut-être au château, le pêcheur surveille son bouchon, les haleurs halent et on imagine, sans peine, que dans l'arrière-campagne, on ramasse des olives, cercle la vigne, fauche le blé, engrange le foin. Ces activités se déroulent dans un monde étranger, au monde magique d'Orphée, d'Eurydice et de leurs amis. Rien ne changerait la routine des humbles travaux des champs si les deux jeunes mariés n'étaient pas venus s'installer sur la rive droite du fleuve pour cueillir des fleurs sauvages, chanter, boire, jouer à la dinette sans se soucier du monde qui peine autour d'eux. Les haleurs, qui luttent contre un possible incendie, se baignent nus dans la rivière sans aucune pudeur et même exhibent ses fesses en pure provocation rablaisienne. Il est clair que les deux temps ne coïncident pas, que la vie avance à deux vitesses différentes à l'intérieur même du tableau. Ils pourraient s'ignorer les uns et les autres jusqu'à la tombée de la nuit, et peut-être même bien après, si la foule ne tombait pas sur l'idyllique aventure, si Eurydice interrompait le cours des événements par son cri douloureux. L'angoissante fragilité du bonheur ternit toujours tout. Le moment où la jeune femme se détache de son mari et du groupe des adoratrices n'est pas perçu tout de suite par la petite bande d'amis. Ainsi, l'espace de quelques secondes, Eurydice s'est intégrée dans un troisième temps, celui dans lequel le peintre a placé sous nos yeux celle qu'Ovide appelle déjà Moritura, qui s'apprête à mourir. Nous connaissons la suite, soit que nous acceptions la version officielle et traditionnelle, soit que nous corrigeons le drame avec humour ou cynisme. La remontée des enfers, bien que prévenue de ne pas se retourner pour s'assurer que Eurydice le suit, en fait transgressera la recommandation d'Hadès et à jamais perdra de vue sa jeune épousée. On peine à croire qu'il ne le fit pas exprès, ayant découvert, mais un peu tard, qu'il n'était pas fait pour le mariage. Les ménages, en le déchirant à belles dents, lui feront payer cher ses goûts particuliers. J'invente. Dans un roman où l'auteur se contente de terminer par trois points de suspension, le lecteur est invité à laisser jouer son imagination. Les tableaux qui nous captivent toujours le plus sont ceux où les personnages attendent l'arrivée d'un messager, quelques signes informulés qui les tirera de leur bonne torpeur. C'est vrai pour le Poussin, comme c'est vrai pour Chapelain Midi et Balthus. Cette attente crée dans et autour du tableau un silence que l'on n'ose plus briser que le silence, pas plus brisé que le silence à l'intérieur d'une église déserte où le seul bruit des pas sous la nef semble un sacrilège. On parle volontiers, on se signale des détails devant le radeau de la Méduse, mais on se tait devant l'enterrement du comte d'Orgaz. Ce n'est pas forcément que le Greco soit un plus grand peintre que Géricault, mais c'est que les flammes qui les habitent brûlent différemment et que le choc ressenti face à ces deux chefs-d'œuvre est tumultueux ou secret.